Je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série guérison avec un message que j'appelle « Ça n'a pas de bon sens ». Ça n'a pas de bon sens. C'est tiré de Luc chapitre 15 où Jésus raconte trois histoires l'une après l'autre. Trois histoires de perte. La brebis perdue, l'argent perdu et le fils perdu. Trois histoires que, quand nous les lisons ensemble, nous poussent à déclarer « ça n'a pas de bon sens ». Quand on les lit, on dit « ça n'a pas de bon sens, ces histoires ». D'abord, c'est toutes des histoires que vous connaissez. D'abord, le berger qui quitte 99 brebis pour aller à la recherche d'une. En plus, il laisse les 99 autres brebis dans le désert. En anglais, c'est traduit « wilderness », un lieu sauvage. Alors, un risque. Il risque les 99 pour une. Là, normalement, si on est homme d'affaires, on dirait qu'une perte de 1% fait partie du business. Une brebis sur 100, c'est une perte de 1%. On est capable de vivre avec une perte de 1%. Et surtout, de ne pas mettre potentiellement en péril 99 pour une. Not good business. Les chiffres n'appuient pas sa décision. Et en plus, dès qu'il trouve la brebis, il appelle une fête. C'est là en Luc 15. Jésus termine sa première histoire avec, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Rejouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je ne sais pas ce qui a servi à la fête. L'agneau au barbecue, peut-être? Mais peu importe. Ça semble être un peu exagéré comme réaction au fait d'avoir trouvé une brebis quand il avait quand même 99 là avec lui. Ça n'a pas de bon sens. Là, en deuxième histoire, c'est une femme qui perd une pièce d'argent et qui fait tout ce qui est nécessaire pour la trouver. Tout à fait normal. Mais dès qu'elle la trouve, elle aussi, Jésus nous raconte, Luc 15:9, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Rejouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Pour ceux qui demandent, c'est quoi la drachme? C'est quoi une drachme? Une drachme, c'est une pièce d'argent qu'on pouvait tenir dans une main. D'où vient le mot grec drachme, qui est un mot associé avec la main. C'est à peu près 40 $ aujourd'hui, 40-50 $ aujourd'hui, ou une journée de salaire dans le temps. Alors, elles prennent toute la journée pour trouver son argent, dont elles perdent une journée de salaire pour trouver une journée de salaire, et par la suite, elles dépensent la valeur de l'argent qu'elle avait perdu et retrouvé pour fêter avec ses amis le fait d'avoir trouvé sa pièce d'argent. Ça n'a pas de bon sens. Quand vous lisez l'histoire, on dit, ça n'a pas de bon sens. Et la dernière histoire, qui est la plus renommée, celui du fils perdu, ou le fils prodigue, si vous voulez, tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire d'un fils qui demande à son père son héritage pendant que son père est encore vivant. Qui est une autre façon de dire à son père, « Meurs! Die, why don't you? » Pourquoi es-tu encore vivant? Je veux mon héritage. Je méprise ta vie. Je ne veux plus attendre mon héritage car tu ne meurs pas assez vite. Donne-moi ma portion tout de suite pour que je quitte toi et la maison pour vivre comme si tu étais déjà mort. Quelle insulte! Vous êtes d'accord avec moi? Quelle insulte à son père! Meurs, tu ne meurs pas assez vite. Je veux vivre comme si tu es mort. Quelle offense et affronte. Quelle ingratitude enfantin. Mais, malgré que le fils dépense son argent d'une façon entièrement irresponsable dans la débauche, Jésus nous dit, et malgré la profondeur de l'offense et de l'insulte contre son père, Jésus raconte qu'on retourne du fils vers la maison, comme il était encore loin le fils. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa et dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Une de mes phrases préférées dans la Bible. « Mangeons et réjouissons-nous. » Tous les hommes disent, « Le veau gras en plus. » Yes! Car mon fils était perdu et il le retrouvait. Ils commencèrent à se réjouir avec la musique et les danses. Ça n'a pas de bon sens. Aucune trace de vengeance, colère, vindique dans le cœur du Père, rien que l'amour et la compassion et la grâce et le pardon, malgré l'insulte, malgré l'offense, malgré le péché, on voit rien que la grâce, le pardon, l'amour, c'est entièrement illogique, inhumain, on dirait. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous enseigner. Ces histoires ne sont pas humaines, ils sont divins. C'est Jésus, le bon berger, qui ne compte pas le coup et poursuit la brebis perdue. C'est le Seigneur qui place tellement de valeur sur nous, qui va nous chercher jusqu'à temps qu'il nous retrouve. C'est Dieu, le Père, qui regarde et attend avec patience et anticipation pour nous, malgré nos gestes et paroles offensives et nos actions irresponsables. Il attend pour courir vers nous, bras ouverts, dès que nous faisons juste un pas en sa direction. On sait que ça n'a pas de bon sens, mais combien sont heureux pour l'amour extravagant, illogique et irrationnel de Dieu. Come on, une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui est illogique, irrationnel, extravagant. Merci Seigneur. J'imagine que votre témoignage est comme le mien. Non seulement que le Seigneur m'a trouvé quand j'étais perdu, mais il me poursuit quand je m'égare pour me rediriger sur le bon chemin. Et fois après fois après fois, il m'attend avec patience, prêt à me pardonner quand je fais à ma tête et pêche contre lui et l'insulte et l'offense avec mes gestes et paroles et parfois par ma négligence. Quand je vis ma vie comme s'il n'existait pas, comme s'il était mort, comme le fils prodigue. Mais à chaque fois que je tourne ou retourne vers lui, il est là, constant, compatissant, généreux. En fin de compte, c'est moi la brebis, c'est moi la pièce d'argent et c'est moi le fils perdu qui est aimé par Dieu. Commande encore une fois, bonne main d'applaudissement. C'est moi, c'est notre témoignage, c'est votre témoignage. Ça n'a pas de bon sens que Dieu m'aime de cette manière. Qu'il m'aime quand je suis indigne de son amour. Qu'il m'aime même quand je ne suis pas aimable. Vous allez peut-être être surpris, mais moi, je ne suis pas toujours aimable. Vous avez juste à demander mon épouse. Bonne chance qu'elle n'est pas là pour crier « Amen ». Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur n'arrête jamais de m'aimer et de me poursuivre et de regarder pour moi, ça n'a pas de bon sens. Et je crois que c'est ça que l'apôtre Paul voulait dire quand il a écrit en Éphésiens 3, le passage est sur l'écran. Il y avait comme une prière dans le cœur de Paul pour l'Église, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, pas juste vous, l'Église en Éphèse, mais toute l'Église, vous et moi. Je prie que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, longueur, profondeur et hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cette connaissance peut être remplacée ici par la logique, la raison, la rationalité. L'amour de Jésus dépasse la raison, la logique, les émotions et réactions normales et humaines. Et pourquoi que Paul voulait tellement que nous saisissons la signification et la profondeur de cet amour? Parce que ça change tout. Quand on reçoit une révélation de l'amour de Dieu, ça change tout. Et là le rapport entre ces histoires, ça n'a pas de bon sens, et la guérison. Nous sommes dans une série guérison. Et existe-t-il une meilleure guérison? Ou source de guérison que de savoir que nous sommes aimés par Dieu d'une façon extravagante et inconditionnelle. Une telle révélation est le remède pour le rejet, la solitude, la mauvaise estime de soi, les insécurités, les complexes et la crainte. L'apôtre Jean était catégorique, il a dit tout simplement en 1 Jean 4, « L'amour parfait bannit la crainte. » Point. C'est le remède pour la crainte. C'est pour ça que Jean a écrit sur l'amour plus que n'importe qui d'autre, de long à large, car il connaissait la puissance guérissante d'une compréhension de l'amour de Dieu pour nous libérer de nos anxiétés, nos inquiétudes, nos phobies, nos craintes rationnelles, irrationnelles. Les choses qui nous gardent réveillés la nuit sont bannées à la révélation de l'amour parfait de Dieu. Commande encore une autre fois une bonne main d'applaudissement pour l'amour parfait de Dieu. Ça bannit la crainte. C'est pour cela que je prie comme Paul a prié pour une révélation de cet amour à chaque jour. pour notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle, de comprendre que le Seigneur nous aime, que nous avons de la valeur à ses yeux, comme la valeur de cette pièce d'argent aux yeux de la femme dans l'histoire, et encore plus. Comprenez, comme je dis souvent, nous sommes toujours indignes, mais jamais sans valeur. Il y a une différence. On dit en anglais, « We are always unworthy, but never worthless. » On est toujours indigne, mais jamais sans valeur. Jamais. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui est sans valeur. Car nous avons tellement de valeur que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Nous sommes aimés. Vous êtes aimés plus que vous pouvez imaginer, car vous êtes une personne et non pas un animal. Certaines personnes dans la société aimeraient nous faire croire que nous sommes rien qu'une autre espèce d'animal, mais plus évolué. Vous avez déjà entendu ça? We're just higher up on the food chain. On est comme tous les autres animaux, mais on est juste un petit peu plus évolué. L'être humain, c'est un mensonge. Vous n'êtes pas un animal, vous êtes un être humain fait à l'image de Dieu, avec un âme éternelle qui vaut plus que tout l'or sur la terre, ainsi que l'animal le plus précieux qui existe. C'est pour cela que Jésus a dit en Luc 12, considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Vous valez plus qu'un oiseau. Et nous pouvons ajouter à cela, vous valez plus qu'une baleine, un phoque, un chat, un chien ou un canard. Et je dis canard pour une raison. Parce qu'il y a quelques mois, l'État de New York, à quelques minutes d'ici, l'État de New York, dernièrement a passé une nouvelle loi atroce qui permet l'avortement jusqu'à la naissance d'un bébé, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la seconde, la dernière seconde, pour n'importe quelle raison, il peut avoir un avortement. Et ça, c'est une nouvelle loi pour la première fois dans les États. Et ils ont passé cette loi-là il y a juste quelques mois avec une grande célébration dans la maison du Congrès. On est fiers que maintenant on offre l'avortement jusqu'à la dernière minute. Et maintenant, ils contemplent une loi pour interdire le foie gras au restaurant parce que les canards souffrent. Vraie histoire. Tue les bébés, sauve les canards. Puis c'est arrivé presque en même temps. Et quand j'ai vu ça dans les journaux et les nouvelles, j'ai dit, ça c'est l'absurdité d'un monde éloigné de Dieu. On veut sauver les canards à tout prix, mais on va tuer les bébés. Est-ce que vous me suivez? Comprenez que je ne suis pas ici pour défendre le foie gras et que j'aime les animaux et ne veux pas voir même un animal souffrir. Mais comprenez, aucun animal compare à la valeur d'un homme, d'un être humain, à votre valeur et l'amour que le Seigneur a pour vous. Pouvons-nous prier pour une fraîche révélation de cet amour? Seigneur, je suis aimé. L'être humain vaut quelque chose. Si c'est votre prière, levez vos deux mains vers le Seigneur, puis dites, Seigneur, je prie, comme Pierre a dit, une révélation de la longueur, hauteur, profondeur, grandeur de ton amour qui dépasse la connaissance, la logique humaine. On prie pour une révélation de cet amour. Mais non seulement une révélation de l'amour. Ma prière dernièrement, c'est, Seigneur, je veux la réponse à la prière de Paul. Je veux avoir une révélation de la profondeur, la richesse de ton amour. Mais non seulement une révélation, mais aussi l'expression. Je veux l'exprimer, dégager. Car je crois que l'amour de Dieu est quelque chose que nous devons tous expérimenter, parce que ça nous donne la guérison, ça nous donne la confiance, ça nous libère de la crainte. Mais c'est aussi quelque chose que nous devons tous exprimer. On le reçoit, mais on l'exprime. L'amour extravagant de Dieu n'est pas seulement quelque chose qu'on reçoit, mais qu'on dégage, on exprime dans notre vie quotidienne. Comme décrit par Paul, 2 Corinthiens 5, il dit non seulement que l'amour de Dieu est révélé à moi, mais il dit aussi que l'amour de Christ nous presse. Littéralement, de presser en grec, squeeze en anglais. C'est une force qui nous écrase à un tel point que nous n'avons comme pas de choix que de bouger, d'agir. C'est un amour qui nous réveille, nous libère de la nonchalance, nous libère de l'apathie, de l'indifférence, de l'égocentricité. C'est un amour qui nous fait bouger. Je me souviens quand mon fils Jay avait une attaque de l'asthme sévère à l'âge de 2 ans, la première et dernière attaque dans sa vie. Je me souviens, j'étais au bureau, j'étais pasteur dans le temps à temps plein, puis mon épouse m'appelle au bureau au téléphone pour me parler de mon fils qui souffre, et moi j'avais une réaction typique. Je suis occupé. Occupe-toi de lui. Il va être correct. Je m'en occupe quand je retourne à la maison. J'ai pas le temps. Elle n'a rien dit, sauf elle a mis le téléphone près de lui. Rien dit sauf mettre le téléphone près de lui pour que j'entende le son de son respire difficile. Et je l'entends encore aujourd'hui, comment il y avait la difficulté. Et je l'entendais aller chercher le souffle et les poumons, puis presque un siffle, puis il y avait de la misère. J'avais juste entendu le son et j'ai tout de suite sauté dans la voiture, pleine vitesse à la maison, embarqué dans la voiture, mon fils couru vers l'hôpital. Et tout long, je pensais comment j'aurais préféré prendre sa place. Je me souviens, mon fils qui était là, qui avait la difficulté à 2 ans, j'aurais tellement préféré que ce soit moi qui souffre et non pas lui. Et les parents savent de quoi je parle. Vous savez, c'est quoi quand on veut prendre la place de notre enfant qui souffre? On appelle ça la compassion. Moi, je pensais être dérangé au bureau, puis j'avais 1001 excuses pour lesquelles je ne pouvais pas me déplacer jusqu'à temps que j'entends le son. Et c'est pour ça que je prie encore, « Seigneur, fais-moi entendre le son des personnes qui souffrent, le son des personnes désespérées, le son des personnes perdues, le son des personnes qui n'ont pas de raison d'être, le son du cœur de Dieu, le son d'une éternité sans Dieu, le son de la trompette. Je veux entendre le son pour que je bouge. » Pour que j'aie la compassion, pour que l'amour de Christ me réveille. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Qu'on veut entendre le son. Seigneur, je veux entendre le son. On veut, Seigneur, je prie pour que toute l'Église entende encore le son pour que ça nous fait bouger. Et c'est ça que Paul voulait dire. L'amour de Christ me fait entendre le son des perdus, le son des personnes qui sont éloignées de Dieu, le son des personnes qui souffre, et comme le son de mon fils, ça m'a fait bouger, agir, réagir. Est-il possible d'avoir ce niveau de compassion pour les autres comme qu'on peut avoir pour nos enfants? De dire, mais j'aimerais prendre sa place. D'avoir ce niveau de compassion pour les autres, c'est exceptionnel et rare, mais possible. Comment est-ce que l'apôtre Paul dit en Romains 9? Il commence avec ça, puis c'est une des rares fois que l'apôtre Paul dit ça, parce qu'il pense que les gens ne vont pas le croire. Il dit, je dis la vérité. Je dis la vérité en Christ, là, en Jésus. Je ne mens point. Vous allez penser que je mens, mais je ne mens pas. Okay? Christ est mon témoin. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça, c'est une autre façon de dire, attachez votre sucre, car vous n'allez pas me croire. Il dit, je ne mens pas, je dis la vérité, Christ est mon témoin. J'éprouve une grande tristesse. C'est comme des sentiments de compassion à l'intérieur de moi. J'ai dans le cœur le chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Quand on lit ça, on dit ça n'a pas de bon sens. What? Wow! C'est pour ça qu'on comprend qu'il dit, hey, je dis la vérité, là, je ne mens pas. Il dit, je serais prêt, moi, à être séparé de Christ. Nous savons à quel point l'apôtre Paul aimait Christ. Il était prêt à être séparé par Christ, maudit, anathème, de souffrir éternellement, séparé de Dieu pour le salut de ses frères. Waouh! Ça n'a pas de bon sens. Il était prêt à sacrifier son salut pour les autres. Ce fut impossible, mais il exprime littéralement le cœur de Christ, car c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Alors, ce ne fut pas nécessaire ni possible que Paul le fasse, mais nous voyons le cœur de Jésus pour les hommes en lui, parce que Jésus a pris notre place. Jésus est mort à notre place. Jésus a pris nos péchés sur lui. Jésus a souffert à notre place. Jésus était maudit à notre place. Alors, ce n'était pas nécessaire et impossible. Mais nous voyons littéralement le cœur de Christ, les compassions de Jésus en Paul quand il dit, moi je serais prêt à donner ma vie pour le salut des autres comme Jésus a fait. Pas possible, mais on voit le cœur de Christ. Ça n'a pas de bon sens, mais il exprime littéralement le cœur de Jésus. Moi je ne suis pas là, Mais que le Seigneur me donne au moins une portion de cette passion et compassion de Paul. Cet amour pour les pécheurs et les perdus, les éloignés, les séparés. Que le Seigneur nous donne une passion pour les âmes qui nous pousse encore à faire des choses illogiques d'une façon parlée. Illogique comme quitter des bons postes et des bons salaires pour répondre à l'appel de Dieu, comme plusieurs personnes ici à l'Église Nouvelle Vie et sur l'équipe pastorale, c'est des personnes qui ont quitté des carrières et des métiers pour répondre à l'appel de Dieu pour un ministère pastoral à temps plein. Puis quand on entend l'histoire, on dit « ça n'a pas de bon sens ». Oui, mais c'est l'amour de Christ qui me presse à le faire. Des choses illogiques comme quitter le confort d'une maison, d'une famille et d'un pays pour répondre à l'appel de Dieu au ministère. Comme à chaque année, ça fait 20 ans que je suis impliqué dans la formation théologique, à chaque session sans faute, il y a des personnes qui vont venir répondre à l'appel de Dieu à grand prix, grand sacrifice, quitter des carrières, des métiers, les gens qui viennent de l'extérieur. Comme professeur, on est toujours émerveillé à chaque session des personnes qui quittent l'Europe, la France et la arrive ici des jeunes couples, des enfants, ils ont quitté le confort, la maison, vendu la voiture, quitté des business, l'argent, la famille, le payer pour répondre à l'appel de Dieu. On entend leur histoire et on leur dit, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui t'amène ici pour vivre un peu presque dans la misère, très simplement, dans l'inconnu, l'insécurité ici? Ils vont répondre, ben, c'est pour les âmes, c'est pour répondre à l'appel de Dieu. C'est l'amour de Christ qui nous presse. On dit, ça n'a pas de bon sens, mais merci Seigneur pour les personnes encore aujourd'hui qui vont faire des choses illogiques poussées par l'amour de Dieu. Bonne main d'applaudissement pour ces personnes. Toujours émerveillé, ça n'a pas de bon sens. À la première réunion à 9h, j'ai présenté deux familles qui sont arrivées cette semaine de la France. Deux couples, trois enfants chaque, justement, sont déracinés pour venir ici, pour suivre une formation, pour répondre à l'appel. Et je les ai dit, ça n'a pas de bon sens que vous êtes là. On est heureux que vous êtes là, mais ça n'a pas de bon sens. Mais si vous les demandez, ils vont dire, on est prêts à le faire. C'est parce que l'amour de Christ nous pousse, nous presse. Ça dépasse la connaissance. Est-ce que vous me suivez? Des choses illogiques, comme lancer un autre multisite Église Nouvelle Vie à Drummondville, malgré nos ressources limitées et surcharge de travail et les mains pleines déjà avec ce que nous avons. Puis des fois, on a la Prairie, on a Longueuil, toutes les autres choses. Des fois, les gens vont dire, un autre multisite à Drummondville, ça n'a pas de bon sens. On comprend, mais ça fait trois réunions que nous faisons avec plus que 200 personnes qui sont là et on dit, ça n'a pas de bon sens, mais on est poussé par l'amour de Christ pour les 100 000 personnes de cette région qui font entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si on va aller de l'avant, on va donner, travailler, servir avec Pierre, Louise et toute l'équipe de Drummondville qui sont là ce matin. Puis on dit merci Seigneur, puis après Drummondville, mais ça va être un autre multisite à quelque part d'autre. On n'arrête pas parce que l'amour de Christ nous presse. Come on, une bonne main d'applaudissement qu'il y a toujours quelque chose d'autre, toujours quelque chose d'autre, toujours quelque chose d'autre. Ça n'a pas de bon sens, c'est illogique, mais c'est l'amour de Dieu. Illogique comme vous. Vous qui donnez de votre temps, argent, talent, dons, efforts pour l'Église et ses ministères, année après année après année, malgré vos occupations, vos soucis personnels, vos charges et vos ressources limitées, des personnes comme vous, crois-moi, l'équipe pastorale est émerveillée semaine après semaine. Comment que vous êtes là, vous donnez, vous priez, vous impliquez, vous déplacez, vous servez, vous priez. Ça n'a pas de bon sens, année après année, votre service, fidélité, générosité et service. Pourquoi que vous êtes encore là? Vous allez répondre, c'est l'amour de Christ qui nous presse. On le fait par l'amour de Dieu et pour les âmes. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment bonne main d'applaudissement pour les personnes qui se déplacent et qui donnent et qui servent année après année après année. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Mais justement, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui pousse une église, un peuple, une famille, une personne à continuer à donner, servir, travailler, témoigner, bouger? C'est notre cœur pour une personne de plus. Notre cœur pour une personne de plus, plus pour Christ. C'est notre cœur pour les âmes. Ça, je crois, c'était capté dans une prière que j'ai vue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film « Tu ne tueras point », qui est un film de guerre, une histoire vécue incroyable d'un jeune homme sans aucune arme parce qu'il ne voulait pas tuer, il voulait sauver. Mais que lui a donné sa vie pour sauver des dizaines et des centaines de soldats dans des situations atroces. Et il y a une prière dans ce film qui capte justement l'essence de la raison pourquoi on fait tout ce qu'on fait et pourquoi on va faire des choses qui n'ont pas de bon sens et qui sont logiques. C'est pour une personne de plus, comme qu'on voit dans sa prière. Puis quand j'ai vu cette prière-là, j'ai dit, oui, c'est ça. Ça, c'est l'essence de l'Église. On a le petit clip ici sur l'écran.
Thank you. te ramener chez toi.
Il faut que vous veniez voir.
Qui a fait ça?
Ça, c'est le lâche.
On doit retourner là-bas demain. Et ils refuseront d'y aller sans toi.
Seigneur, faites que j'en sauve un de plus. Un de plus.
Quand j'ai vu la scène du jeune homme à genoux devant Dieu, puis disait, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la grâce, donne-moi le courage de sauver une de plus. J'ai dit, c'est ça notre prière. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Parce que nous avons le cœur de Paul, le cœur de Jésus pour une personne de plus. Et quand on voit son histoire, on dit, ça n'a pas de bon sens de faire ce que tu as fait. Puis lui aurait dit, bien, j'ai comme un amour qui me presse à le faire. C'est l'héroïsme, c'est mettre sa vie en péril et payer le prix pour sauver une de plus. N'est-ce pas ça la mission de l'Église? N'est-ce pas ça à laquelle on est appelé, une personne de plus. Comment répéter après moi? Une personne de plus! Une personne de plus! S'il vous plaît, n'écrivez pas un courriel. Pasteur Mark, c'est pas correct de faire des clips de films de guerre un dimanche matin dans le sanctuaire. C'est violent, le sang qui coule, etc. S'il vous plaît, pas de courriel, OK? C'est une histoire vécue d'héroïsme. Et oui, c'est violent, c'est un film de guerre. Et oui, le langage est un peu intense, mais c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, le soldat qui reçoit une balle dans l'épaule? Colin, ça pince. Quelqu'un lance une grenade qui explose ses jambes. Tabarnouche, ils ne sont pas gentils. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité. C'est un film de guerre. Mais c'est une histoire vécue. Puis nous, on n'est pas impliqués dans une histoire, une guerre physique, littérale aujourd'hui, mais on est quand même impliqués, Éphésiens 6, dans la guerre spirituelle, la guerre pour les âmes, la guerre qui nous demande à faire n'importe quoi, puis sacrifier, puis donner, et dont l'amour de Christ nous presse pour faire ce qui est nécessaire pour une de plus. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Ça n'a pas de bon sens, mais exactement, c'est pas nous, c'est Dieu. C'est le cœur de Christ qui nous pousse, c'est le cœur de Christ qui nous presse, comme Paul. C'est ce que nous ne voulons jamais perdre. On ne veut jamais perdre ça, ce cœur-là. Pour devenir des religieux ou des chrétiens professionnels. C'est quoi un chrétien professionnel? C'est quelqu'un qui professe. C'est quelqu'un qui confesse qu'il a les bonnes paroles, mais zéro action. Zéro donné, zéro impliqué, zéro témoigné, zéro sacrifice, zéro, mais il professe. C'est un chrétien professionnel. On ne veut jamais devenir des chrétiens professionnels. On veut toujours être des chrétiens passionnés. Passionnés. Et je dis ça parce que ces histoires-là sont racontées pour des religieux, des chrétiens professionnels. Parce que juste avant que Jésus raconte les trois histoires, ça nous dit ici, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes, les professionnels, si vous voulez, ils murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et Jésus, quand il a entendu ça, il raconte ces trois histoires-là. Parce qu'ils avaient perdu la valeur d'un âme, la valeur de tous les âmes. Dysfonctionnels, déchirés, mauvaise vie, confondus, problématiques. Ils avaient perdu la valeur des âmes par un genre de religiosité. Et ces histoires étaient pour eux, étaient pour nous, pour moi, afin que je ne devienne jamais comme eux. Afin de ne perdre jamais ma passion pour les perdus, ma perspective sur la valeur d'un âme, que je ne prends jamais la salut d'une personne pour acquis, ni la merveille de l'amour de Christ. Et qu'est-ce qui me frappe de cette histoire-là? C'est la manière que les pharisiens parlaient. Ils disent ça avec dédain. Ils reçoivent des pécheurs et mangent avec eux. Ils auraient dû dire avec merveille, « Wow! Ils reçoivent des pécheurs et mangent avec eux! Combien sont heureux que Dieu reçoit des pécheurs et accueille des pécheurs et mange avec eux. Sinon, vous ne serez pas là et moi, je ne serai pas là. C'est parce que Dieu reçoit des pécheurs que nous sommes là ce matin. Ça mérite une bonne main d'applaudissement pour un Dieu qui reçoit des pécheurs et mange avec eux. On dit non, pas avec dédain, mais avec merveille. Il reçoit des pécheurs et mange avec eux. Ça n'a pas de bon sens. Un Dieu qui fait ça. Avez-vous remarqué le point commun dans toutes ces histoires à part de la perte? C'était la joie de la découverte, le retour, la restauration, la vie. Dans chaque histoire que Jésus raconte, il y a une perte. Mais dans chaque histoire, il y a aussi une fête. Chaque histoire termine avec la fête, la réjouissance, en communauté, dans au moins un des cas avec la musique, la danse, le banquet, c'est le festin. Non pas comme les rencontres sociales typiques d'une église avec les gens debout avec leur café en main et des sourires polis. Non, c'est une vraie célébration qui reflète la fête au ciel pour le salut de rien qu'un homme. Pourquoi que Jésus termine chaque histoire avec une fête? Il nous donne la réponse lui-même. Il dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Chaque fois que quelqu'un sur la terre donne sa vie à Christ, c'est la réjouissance et c'est la fête et le festin au ciel. C'est une constante célébration parce que toujours quelqu'un sur la terre a quelque part qui donne sa vie à Jésus. Pourquoi? Pourquoi que Jésus met l'emphase dans chacune de ces histoires-là, la réjouissance? Pourquoi que le ciel se réjouit pour un homme, une personne, une? Trois raisons, parce qu'ils connaissent la valeur d'un homme. Eux, ils connaissent la valeur d'un homme. C'est un homme qui vient à Jésus, c'est la réjouissance. Deuxièmement, il connaît la joie du ciel. Il dit, un autre qui rentre au ciel, yes. Un autre qui rentre au ciel, yes. Il connaît la gloire du ciel et la joie du ciel que parfois, nous, on le manque, on le perd. On perd un peu cet émerveillement avec le ciel. Mais eux, ils le connaissent parce qu'ils vivent. Puis il dit, un autre qui rentre au ciel, la joie du ciel. Puis la troisième raison pourquoi ils se réjouissent, parce qu'ils connaissent l'horreur d'une éternité sans Dieu. Ce que la Bible appelle l'enfer, qui est aussi une réalité. Eux, ils connaissent aussi l'horreur d'une vie sans Dieu, l'horreur d'une éternité sans Dieu, l'horreur de l'enfer. Et parce qu'ils connaissent la valeur d'un homme, la joie du ciel et l'horreur de l'enfer, même quand une personne donne sa vie à Jésus, ils ne sont pas blasés, indifférents, nonchalants. C'est la fête. Que le Seigneur puisse nous réveiller à ces trois réalités pour qu'à chaque fois quelqu'un donne sa vie à Jésus, on dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. 60 personnes baptisées, 50 personnes, 75 personnes, qu'on ne dit jamais, oh, mais on est habitué, c'est une nouvelle vie. Non, à chaque fois, on devrait sauter, se réjouir, célébrer. C'est des âmes, des âmes, des âmes. Merci Seigneur, parce qu'on comprend la valeur d'un âme. Come on, une bonne main d'applaudissement pour les âmes sauvées en 2019, aujourd'hui, ici au Québec. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit que Dieu est irrité avec les méchants en tout temps, ou à tous les jours. Psaume 7, 11, en anglais, « God is angry with the wicked every day. » Nous avons juste un aperçu de la méchanceté, la cruauté, la dépravation qui prennent place dans notre monde, et nous sommes horrifiés. Vous êtes d'accord avec moi? Right? Nous, des fois, là, on va lire des histoires, on va apprendre quelque chose sur l'être humain, puis on comment ça se fait? Comment c'est possible d'être, faire quelque chose si atroce, si cruel que ça? Puis parfois, nous, on a juste un aperçu des choses qui prennent place dans le monde. Puis parfois, on est horrifié par ce qu'on voit. Mais pensez à Dieu, qui voit tout, en tout lieu et en tout temps. Inimaginable. On comprend pourquoi qu'il est irrité contre les méchants à tous les jours. Il voit tout en tout temps. On a fait une série pour hommes l'hiver dernier, appelée « Sonner de la trompette ». Moi et Martin Bourassa ensemble, où nous avons découvert l'horreur des conséquences de la pornographie sur notre société, les jeunes et les enfants, l'horreur. C'était une série très directe pour les hommes, plus que 200 hommes à chaque fois qui étaient là. Quand on a pris les effets destructeurs et horribles de la pornographie sur la société, surtout sur les jeunes et les enfants, nous avons été affectés, attristés, troublés, avec raison. Mais imaginez Dieu encore une fois. Toutes ces atrocités sont devant ses yeux à tous les jours. Puis il n'est pas indifférent. Si nous n'est pas indifférent, il n'est pas indifférent. Il est affecté, troublé, irrité. Mais il attend, il attend. Ça n'a pas de bon sens que Dieu attend. Ça n'a pas de bon sens que le Seigneur soit si patient qu'il retarde son arrivée et son jugement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand la voix du sang des millions de bébés avortés crie de la terre jusqu'à ses oreilles, comme le sang d'Abel décrit en Genèse 4, comment et pourquoi que Dieu supporte pour si longtemps? L'horreur des choses qui prennent place dans notre monde, on se demande la question des fois, comment ça se fait? l'abus, l'avortement, la violence, les injustices, la cruauté, la persécution, la déviation, la perversion, la décadence, la déprivation. Pourquoi que Dieu attend? Dieu nous donne, Pierre nous donne la réponse. Très important, écoutez ce que Pierre dit ici. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, comme aujourd'hui, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, « Où est la promesse de son avènement? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Il dit, ne vous trompez pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Il est juste patient. Ce n'est pas parce qu'il est indifférent. Il n'est pas en retard. C'est juste parce qu'il est patient. Pourquoi qu'il est si patient avec les choses atroces que nous voyons dans le monde aujourd'hui? Il dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il dit, le jour du Seigneur viendra. Ça va arriver. Mais Dieu retarde et retarde et retarde par amour, parce qu'il ne veut même pas qu'une personne périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est l'amour de Dieu qu'il retient et c'est sa patience qui retarde le jugement et la fin. C'est parce qu'il aime, il aime. Le cœur de Dieu est pour une personne de plus, une personne de plus, une journée de plus, une semaine de plus, parce que Dieu aime le monde. Est-ce que vous me suivez? C'est son amour. C'est pour ça qu'on dit, ça n'a pas de bon sens qu'il attend. Oui, mais c'est son amour. Mais Pierre, il dit, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Le jour du Seigneur viendra. La terre a une date d'expiration. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible est claire. La terre a une date d'expiration. Comme toutes choses ont une date d'expiration, la terre a une date d'expiration. Quand vous faites votre épicerie, vous êtes comme moi. Vous vérifiez toujours la date d'expiration. Parce que nous savons que toutes choses, tôt ou tard, ont une date d'expiration. Puis quelques affaires plus tôt que plus tard, comme les bananes. Moi, je suis tanné de voir toujours une banane brune, noire, mou sur le comptoir. Il y a toujours une banane qui dépasse la date d'expiration trop tôt. Cela, vous devez faire comme moi. Quand moi, je quitte IGA, j'ai toujours une banane dans la poubelle tout de suite. Sauf j'ai mes bananes, je sors l'IGA, je prends une banane, je mets ça dans la poubelle. Je dis, bien, on va le faire là parce que je sais qu'on va le faire plus tard. Alors, sauvez du temps. Puis là, quand on a des bananes brunes, noires et moues sur le comptoir, mon épouse ne veut rien gaspiller. Soit elle va dire, non, je vais le mettre dans le congélateur pour faire un pain à bananes plus tard. Correct. Soit deux semaines plus tard, je prends les bananes congelées et je les jette dans la poubelle. Alors, pour sauver le problème, je jette une banane dans la poubelle tout de suite en sortant de l'épicerie. Faites comme moi. Je vous enseigne la sagesse ici aussi. Sauvez du temps. Parce que tout a une date d'expiration. Tout, dans le monde entier, nous savons ça. Quelques-uns plus rapides, quelques autres moins rapides. Et la Bible est claire, et c'est ce que Pierre dit. Il dit, oui, c'est vrai, Dieu est patient, Dieu est patient. Puis une année après l'autre, puis là, on voit la décadence qui prend place, puis on dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, c'est vrai, ça. Il dit, le jour viendra. La date, il y a une date d'expiration. Dieu est patient, mais à un moment donné, ça va être la fin de la patience, et le jour va arriver. Mais entre-temps, il est patient à cause de son amour pour les âmes. Nous voulons qu'aucune périsse, aucun, mais que tous arrivent à la repentance. Tous, ça ne peut pas être plus clair que ça. Pouvons-nous être saisis d'un tel amour pour ceux qui périssent? L'amour de Dieu, qu'il fait tolérer des choses juste par son amour. Seigneur, remplis nos cœurs de cet amour, qu'on soit saisis par une compréhension de l'amour de Dieu pour nous et pour les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour combien c'est votre prière? Levez vos deux mains, vous dites, oui, c'est ça, je prie, c'est ça, je prie. C'est la bonne nouvelle encore. C'est qu'un tel amour ne dépend pas sur nous. C'est trop, ça n'a pas de bon sens. Non, ça ne dépend pas sur nous. Un amour qui brise l'égocentricité, l'égoïsme et la nonchalance puis l'indifférence et qui nous fait bouger, tout ça ne dépend pas sur nous. C'est contre notre nature. Alors, ça ne peut pas être fabriqué, faké ou forcé naturellement, mais seulement reçu, vécu et acquis surnaturellement par le Saint-Esprit. J'invite les musiciens à s'avancer parce qu'on va terminer avec un mot de prière ici ce matin, selon Romains 5:5. Écoutez ce qu'il dit, c'est fantastique. L'amour de Dieu, cet amour agapé, cet amour sacrificiel, cet amour qui est décrit par Jésus et Paul, il dit, ça ne dépend pas sur nous, c'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Wow! Ça veut dire que c'est juste un amour qu'on reçoit. C'est un don. C'est donné par le Saint-Esprit. J'ai juste à ouvrir mon cœur, lever mes mains et dire, « Seigneur, donne-moi cet amour. Je veux avoir l'amour. Que l'amour de Dieu brûle dans mon cœur encore une fois. Je reçois l'amour de Dieu donné par le Saint-Esprit. Un amour surnaturel. Un amour divin. Un amour qui vient de Dieu. Ça ne dépend pas sur nous, mais sur le Saint-Esprit. Combien sont heureux pour ça? Le Saint-Esprit est ici ce matin. Le Saint-Esprit agit. Et encore une fois, aujourd'hui, en 2019, le Seigneur peut verser l'amour de Dieu et répandre l'amour de Dieu dans nos cœur par son Saint-Esprit. Et nous allons le recevoir dans quelques instants. Sandra et l'équipe vont nous conduire dans une célébration de l'amour extravagant de Dieu. C'est un chant qui chante l'amour extravagant, inconditionnel de Dieu. Puis on va célébrer cet amour inconditionnel de Dieu. Mais juste avant, on va prier. On va prier. Puis on va recevoir l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que ma prière, c'est que cet amour de Dieu inspire en nous cinq choses. Que cet amour inspire en nous la confiance. L'amour de Dieu bannit la crainte. Moi, je veux que chaque personne quitte cette salle ici avec confiance. La crainte, les phobies, l'anxiété, les choses qui vous ont gardé réveillés la nuit dernière, que vous soyez libérés de ça. Bannez la crainte, bannez. Que vous quittez avec confiance et avec courage. La deuxième chose que cet amour inspire en nous, c'est courage. Si vous êtes découragé ce matin, je veux que vous quittez encouragé. Pas découragé, encouragé. Le courage de savoir que Dieu m'aime. J'ai de la valeur à ses yeux. Qu'il est là pour moi. La constance aussi. La constance. Quand on a une révélation et on expérimente l'amour de Dieu, ça inspire en nous une constance. Ça veut dire on est là année après année après année. On ne lâche pas. On est fidèle dans les tempêtes, les vallées, les montagnes. Ça va bien, ça va moins bien. C'est pas grave. C'est la constance parce qu'on comprend et connaît l'amour de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? On ne lâche pas! Comme moi et mon épouse, dans quelques semaines, on va célébrer 35 ans de mariage. Ce n'était pas facile pour elle, mais elle est restée avec moi. Elle était constante à cause de l'amour de Dieu agapé dans son cœur. C'est pas facile. À travers des tempêtes et des difficultés et des défis, on est encore là, 35 ans plus tard, à cause de l'amour. L'amour, c'est la constance. Et moi, je peux vous dire qu'après 35 ans, mon cœur bat encore quand j'entends sa voix. De la crainte. Qu'est-ce que vous pensez? Ça fait 35 ans. Marc, que j'ai fait. Mais l'amour de Dieu bannit la crainte. Mais aussi l'amour aussi. C'est un mélange de l'amour et la crainte, un peu comme avec Dieu. Et tous les hommes disent, yeah, vous savez. C'est la constance. On est tout l'amour. On est constant avec Dieu, peu importe. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Ça nous presse et nous pousse vers la consécration. L'amour de Christ me presse vers la sanctification, vers un désir de plaire à Dieu. Pour les personnes ici qui entendent un message comme ça et disent, « Ah, mais c'est parfait! » Ça veut dire que Dieu m'aime, peu importe, l'amour inconditionnel, peu importe ce que je fais avec ma vie, une vie de débauche, puis le Seigneur va me recevoir. Alors merci, Marc, de nous donner le feu vert pour vivre notre vie. Vous n'avez rien compris. Non. Vous n'avez rien compris et rien reçu. Vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Parce que quand on a une révélation de l'amour de Dieu pour nous inconditionnel, la dernière chose qu'on veut faire, c'est déplaire à Dieu, c'est vivre dans le compromis, c'est d'attrister son esprit. Non, c'est le contraire. L'amour de Christ et pour Christ me presse, me pousse vers être libéré de l'idolâtrie et la négligence et les choses et les habitudes qui attristent son esprit. Je cherche la consécration, la sanctification. Ne soyez pas comme la personne qui dit, « Mais moi et Dieu, on fait une bonne équipe. Moi, j'aime pécher, lui aime pardonner. » Non! C'est vrai que Dieu aime pardonner, mais on ne veut pas aimer pécher. C'est pas ça, l'équipe. Non, ça nous pousse vers la consécration. Puis en dernier, ça nous pousse vers la compassion. Ça nous donne la confiance, le courage, la constance, la consécration. Mais en dernier, une révélation de l'amour de Dieu, d'expérimenter l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous donne la compassion. Ça veut dire que ça nous réveille de notre nonchalance, notre négligence, notre paresse égocentrique, notre indifférence, un peu comme le son de mon fils qui m'a fait bouger, pensant que j'avais d'autres choses à faire, mais mes priorités ont changé. La compassion de Christ change notre perspective, ça change nos priorités, ça nous fait bouger pour les autres. Combien sont prêts à recevoir l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Comment tout le monde debout, juste avant qu'on chante ce chant qui célèbre l'amour extravagant de Dieu. Je vous invite à juste lever vos deux mains vers le Seigneur, partout ici en arrière, jusqu'ici en avant. Comment? Levons nos voix et nos mains vers le Seigneur. Et c'est une simple invitation. Je prie, Seigneur, l'amour de Dieu répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je veux connaître le feu de l'amour de Dieu, la passion de l'amour de Dieu, la compassion de l'amour de Dieu. Seigneur, je réclame pour chaque homme et femme et jeune dans cette salle une révélation de ton amour, de leur valeur. L'amour de Dieu qui va bannir la crainte, les phobies, les anxiétés, les inquiétudes. Seigneur, je réclame la confiance. Je réclame le courage pour les décourager au nom de Jésus. Pour les personnes qui pensent qu'ils n'ont aucune valeur, qui croient aux mensonges de l'ennemi, les mensonges du passé, que croient qu'ils ne sont pas assez justes, assez beaux, assez intelligents, assez grands, assez riches. Ils n'ont rien à offrir, qui ont été maganés et massacrés par des paroles dans leur enfance. Je réclame au nom de Jésus, Seigneur, une révélation de leur valeur, de l'amour que tu as pour eux, que tout le monde ici a une valeur, qu'ils soient libérés des mensonges du passé, libérés des mensonges qui les écrasent dans une mauvaise estime de soi, libérés pour marcher avec confiance, avec comme des personnes de valeur, remplies de l'amour de Dieu. Seigneur, je réclame un amour répandu dans nos cœurs qui va nous réveiller, qui va nous faire bouger, qui va comprendre la valeur des âmes, tous les âmes. Changer la perspective de comment on voit nos voisins, nos voisines, nos collègues au travail, les étudiants à l'école, nos enfants, nos bien-aimés, les membres de la famille, comment ils ont de la valeur. Sers-toi de nous comme Paul. Sers-toi de nous, Seigneur, pour faire quelque chose. Une personne de plus. Une personne de plus, Seigneur. C'est la prière de tous et chacun de nous. Je réclame par ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Laissez le Saint-Esprit juste faire une œuvre. Nous avons encore du temps. Pas encore 13 heures, nous avons encore le temps. Juste laissez le Saint-Esprit. Dieu le dit, il donne. Si on reçoit le don, on reçoit cet amour, on le reçoit dans nos cœurs, puis on laisse d'une façon surnaturelle l'amour de Dieu transformer, guérir, bannir la crainte, restaurer, libérer.